Dans cet épisode, Judith, orthophoniste, et Geneviève, adulte qui bégait et candidate à la maîtrise en orthophonie, reçoivent Raymond Milan, étudiant au doctorat en épidémiologie. Raymond nous partage son parcours avec le bégaiement, de son enfance au Liban jusqu'à aujourd'hui, en passant par son arrivée au Québec et son expérience à l'école et dans les milieux universitaires et scientifiques. On parle entre autres de différences culturelles, des interventions orthophoniques qu'il a vécues et de son approche des présentations orales.
Salut Judith!
Salut Geneviève!
Aujourd'hui, à l'épisode, on accueille Raymond Milan, qui est membre du conseil d'administration de l'association Bégaiement Communication, et bien sûr, qui est un adulte qui bégait. Il est avec nous pour nous parler de son parcours avec le bégaiement.
Puis avant de commencer, Raymond, on voulait juste un peu dire comment on s'était rencontrés. Donc, nous, on s'est rencontrés en 2019 à la Journée internationale de sensibilisation au bégaiement à Marie-Enfant. Tu faisais un témoignage aux jeunes et aux familles.
Puis moi, ben, je te connais parce qu'on travaille ensemble, au fond, vu que tu es sur le conseil d'administration, mais tu es un peu comme mon boss. Puis j'aimerais préciser aussi que pour la première fois, on est super technologique. On est tout le monde à distance. Moi, je suis à Québec. Judith est chez elle à Bromont et Raymond est chez lui à Laval.
Salut Geneviève et Judith, je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Donc, pour me présenter rapidement, donc, comme vous l'avez mentionné, je m'appelle Raymond. Je bégaye depuis l'âge de 10 ans. Et actuellement, je suis en train de faire mon doctorat à l'Université McGill. Donc, je travaille dans le domaine de la santé en épidémiologie. C'est important d'expliquer un peu c'est quoi l'épidémiologie parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui savent c'est quoi. Bien que là maintenant avec la pandémie, tout le monde entend le mot épidémiologie qui sort souvent dans les réseaux sociaux et dans les médias aussi. Donc l'épidémiologie c'est simplement lorsqu'on fait une étude auprès d'une population. Donc généralement c'est dans le but d'étudier la distribution des maladies, la prévalence, l'incidence et les facteurs de risque. Moi je me spécialise plutôt en pharmacoépidémiologie. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de mieux comprendre comment une certaine population utilise comment une certaine population est traitée avec un médicament. Puis ce qu'on essaye de savoir, c'est dans des conditions réelles d'utilisation du médicament, s'il y a plus d'effets indésirables, et si les personnes réagissent de la même façon à ce médicament ou non.
C'est vraiment cool, Raymond. C'est vraiment impressionnant ton parcours. Tu disais que ton bégaiement a commencé quand tu avais 10 ans. Aimerais-tu nous parler un petit peu de qu'est-ce que tu te souviens, comment ça, tes souvenirs de bégaiement à cet âge-là, comment ça a commencé pour toi?
Je me rappelle que lorsque j'avais commencé à bégayer à l'âge de 10 ans, en fait, je pense aussi que c'est important de mentionner que j'ai grandi au Liban, je suis d'origine libanaise. Donc, c'est ça. Donc, au Liban, la perception du bégaiement est un peu différente que la façon qu'on perçoit au Québec. Je m'appelle qu'à l'école, c'était un peu difficile parce que avant l'âge de 10 ans, j'étais dans la même école, donc j'avais les mêmes camarades de classe, les mêmes professeurs. Et tout le monde me connaissait avant puis après le bégaiement. Alors, tout le monde voulait être un peu impliqué dans le bégaiement pour savoir pourquoi j'ai commencé à bégayer. Donc, j'avais beaucoup de questions. Est-ce que tu as eu des problèmes durant l'été? Est-ce que quelque chose s'est passé avec toi? Je me rappelle que la première chose que mes parents ont fait, c'est d'aller voir un psychologue parce qu'on pensait que c'était souvent lié à un traumatisme durant l'enfance qui peut peut-être déclencher le bégaiement, mais le psychologue m'a rapidement référé à une orthophoniste parce qu'il a dit que c'est plutôt un problème qui doit être dans le temps traité, je le dis entre guillemets, par une orthophoniste et non pas par un psychologue.
OK.
C'est ça.
Fait que c'était comme durant l'été, à la fin, c'était-tu comme un peu à la fin du primaire, c'est ça, ou c'était comme entre, je sais pas comment ça fonctionne au Liban, les années, là, quand tu avais 10 ans?
Je dirais peut-être le système solaire au Liban, il est différent du système solaire au Québec. Je suis pas trop familier avec le système solaire au Québec, mais je dirais que c'était peut-être primaire 3 entre deux et quatre. Donc,
OK, en quatrième année, mettons. Puis là, c'est ça. Durant l'été, c'est durant l'été que ça a commencé. Puis là, les gens te disaient, en revenant après l'été,
oui.
Oh mon Dieu, Raymond, il y a du bégaiement, c'est ça?
Il y a un changement au niveau de ta parole. Oui, les gens pensaient que c'était vraiment lié au stress, mais comme ce qui me stressait le plus, c'est que les gens le remarquaient et me le faisaient remarquer aussi. C'est comme on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je sais aussi que l'intention elle était bonne. C'est parce qu'ils voulaient savoir pourquoi je commençais à bégayer. C'est pas parce qu'ils voulaient juste le pointer. C'est ça. Et je m'appelle aussi. Quand je commençais à avoir l'orthophonie, on a beaucoup travaillé sur le fait est-ce que je bégayais lorsque j'étais plus jeune, mais que c'était un bégaiement qui était extrêmement léger, qu'on le remarquait à peine, ou si ça a vraiment commencé à l'âge de 10 ans.
Je serais curieuse, j'ai une question pour Judith. D'un point de vue orthophonique, est-ce que c'est plus rare de voir des bégaiements qui commencent tard comme ça?
Oui, c'est quand même plus rare. Mais ça se pourrait, tu sais, la discussion que tu avais avec l'orthophoniste, de se dire peut-être que le bégaiement était là depuis longtemps, entre guillemets, là. Parce que souvent, ça commence entre 2 et 4 ans. Puis la moyenne d'âge, là, présentement, qu'on a, c'est autour de 33 mois. Fait que c'est assez jeune, là. L'enfant n'a même pas 3 ans, tu sais, puis ça commence pour la majorité des enfants. Fait que, mais quand même, tout ça, entre 2 et 4 ans, d'habitude, ça commence. Puis à 10 ans, c'est un peu plus rare que ça commence. Mais c'est ça, peut-être que c'était plus léger, on s'en rend pas compte, mais t'as peut-être commencé à bégayer plus jeune. Mais là, c'était comme passé dans le beurre, si on veut. Puis après ça, ben là, à 10 ans, c'est à ce moment-là, tu sais, durant cet été-là, que là, après, ça a paru plus.
Mais sauf qu'en même temps, on dit que c'est plus rare, mais vite comme ça, il y a plusieurs personnes qui sont à l'ABC, puis qui nous rapportent qu'ils ont commencé assez tard. Par exemple, il y a Isabelle Trudeau, qui était à un de nos épisodes, l'épisode 4, qui nous a dit qu'elle a commencé vers 11 ans ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas la première fois que j'entends ça.
Ouais, mais encore là, c'est ça, c'est que des fois, si on écoutait la parole de l'enfant à 2, 3 ans, 4 ans, il y en avait peut-être un bégaiement léger, il était là, mais que ça passait inaperçu. Si on veut, les gens s'en rendaient pas compte, mais parce que des fois, quand c'est très léger, on s'en rend moins compte, tu sais. Fait que peut-être qu'il y a ça aussi. Puis c'est, tu sais, aussi des fois, les souvenirs de la famille sont pas toujours non plus... Ben pas qu'ils sont pas vrais, là, mais des fois, c'est pas... c'est flou, des fois, les souvenirs, tu sais. Fait que ça, mais oui, c'est fait que dans le fond, il y a de tout, tout est possible, tu sais. Ça peut commencer plus tard, c'est plus rare, mais ça se peut aussi que les personnes s'en souviennent moins, puis qu'il y avait un bégaiement, on s'en rendait pas compte. Fait que, ouais, ça, c'est un peu, c'est ça. Il y a quand même plusieurs possibilités, là.
Pour revenir à ta thérapie, là, tu avais 10 ans, t'étais au Liban, puis t'as fait quoi comme exercice ou comme intervention avec ton orthophoniste?
C'était vraiment des méthodes qui visaient la fluidité. Donc, je me rappelle qu'il y avait la méthode qu'on appelait le pianotage. C'est comme je devais vraiment suivre un certain rythme. Et je peux donner un exemple. Je m'appelle Raymond Milan. Donc, à te parler de façon robotique, et je devais vraiment dire chaque syllabe à part, en pianotant aussi. Mais il y avait une autre méthode dans laquelle c'était pas vraiment une méthode, mais c'est parce qu'on me disait que j'avais des problèmes au niveau de l'articulation, donc j'articulais mal des fois. Alors, ce qu'on me demandait, c'est de mettre un crayon, puis de me pratiquer à la maison pendant 15-20 minutes en parlant, parce que ça peut aider avec l'articulation, peut-être aussi au niveau de la parole. Donc, c'est des méthodes que je voyais souvent dans les films aussi, comme par exemple dans King's Speech, je m'appelle, où est-ce qu'il était forcé de mettre soit un bâton en plastique ou bien un bâton en métal lorsqu'il parlait. Donc, ça m'avait rappelé des souvenirs lorsque j'avais vu le film. Mais c'était vraiment des méthodes qui visaient la fluidité. C'est comme, je m'appelle bien que lorsque j'étais jeune, on me disait souvent que si tu fais ces méthodes-là, tu pourras te débarrasser du bégaiement. Puis à 10, 11 ans, on passe toute la journée à l'école, donc j'étudie toute la journée, j'ai envie d'aller à la maison, je dois étudier, puis en plus de ça, je dois faire mes exercices. C'est des exercices qui étaient un peu plates aussi à faire, donc j'étais pas trop motivé à les faire.
C'est drôle parce que c'est comme des vieilles méthodes de mettre un crayon dans la bouche, par exemple, en parlant. Puis à noter, en fait, c'est de donner un rythme à la parole, ce qui est pas mauvais dans le sens que c'est vrai que ça peut diminuer le bégaiement. Le fait, tu sais, on pianote comme si on jouait du piano dans le vide, là. Puis là, on parle sur les syllabes comme ça. C'est vrai que ça peut aider la fluidité, tu sais, mais après ça, la question, c'est est-ce que tu vas parler comme ça dans ta vie de tous les jours?
Comme à quel point est-ce que c'est transposable dans la vraie vie, tu sais?
L'idée était peut-être de reprogrammer un peu mon cerveau, puis je ne sais pas si reprogrammer, c'est le mot approprié à utiliser, mais c'est de c'était comme d'apprendre à parler avec un certain rythme, parce que généralement, lorsqu'on chante, lorsqu'on récite des poésies à l'école, il faut suivre un certain rythme, donc on a moins tendance à bégayer lorsqu'on parle de façon rythmique. Je sais pas si c'est vrai ou non, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui bégayent lorsqu'ils chantent et ils bégayent pas. Donc, ça suivait un peu cette idée. Et c'est sympa aussi, c'est parce que lorsque j'avais 10 ans, c'était quoi, en 2004? Donc, c'est certain qu'il y a eu beaucoup de progrès de 2004 à 2020. Puis, c'est sûr que les approches sont complètement différentes entre le Québec et le Liban.
Mm-hmm. Ouais, parce que, tu sais, c'est ça, on en discutait tantôt avant de commencer l'enregistrement, puis c'est pas quelque chose qui est... Nous aussi, je pense, au Québec, ça a été fait, ce genre de choses-là, mais peut-être là, 30, 40 ans, peut-être, tu sais, fait que pas là, 15 ans, tu sais. Mais encore là, peut-être ça s'est fait là, 15 ans, là, j'avoue que on sait pas ce qui se passe partout au Québec, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu plus comme des... Surtout le crayon dans la bouche, là. Moi, j'ai un collègue qui bégayait qui avait fait ça il y a 30 ans, tu sais, en orthophonie, là. Mais moi, j'étais curieuse de savoir ta famille, comment c'était abordé dans ta famille, le bégaiement?
C'est quelque chose aussi que peut-être j'ai oublié de mentionner, c'est parce que ma mère, lorsqu'elle parle, elle a un débit rapide, puis apparemment, sa respiration n'était pas la bonne. Je pense qu'elle avait une respiration abdominale, mais il ne faut pas respirer comme... Je ne connais pas trop les mots techniques, mais c'est que l'orthophoniste avait dit que je bégayais parce que j'ai hérité de ma mère le débit rapide puis la mauvaise respiration. Donc, je travaillais beaucoup aussi au niveau de la respiration. J'avais plusieurs exercices que je devais suivre qui étaient basés sur une bonne respiration, de parler tout en respirant. Et au début de la phrase, vers la fin aussi, puis la moitié de la phrase. Donc, il y avait beaucoup d'exercices que je faisais. Mais avec eux, c'était vraiment que si je fais les exercices, que je vais être fluide. Mais je dois aussi les remercier, c'est parce que surtout ma mère, elle savait les faire, c'est qu'on se pratique chaque jour. Donc, c'est elle qui me disait, OK, là maintenant, tu t'es reposé un peu, t'as 30 minutes, il faut qu'on se pratique ensemble. Puis elle essayait de me poser des questions, comment s'est passée ma journée. Et je répondais en faisant les exercices. Donc, mes parents étaient vraiment impliqués aussi dans la thérapie. Ce que je suis assez reconnaissant parce que je pense que c'est des fois aussi un problème avec les parents. Ils ne sont pas trop motivés à faire les exercices.
Bien, ça me fait penser que justement, dans mes cours à cette session-ci, là, dans ma première session à la maîtrise en orthophonie, bien, on voit que l'implication des parents, parfois, c'est un problème. S'ils ne s'impliquent pas, ils n'ont pas le temps pour faire les exercices avec les enfants, ben l'enfant ne va pas nécessairement le faire seul, tu sais. Fait que c'est vraiment beau que ta mère était prête à faire ça puis qu'elle s'impliquait, là.
C'était combien de temps à peu près, te souviens-tu, la durée du suivi que tu avais eu à cet âge-là?
J'ai eu 3 suivis différents au Liban. Donc, le premier suivi, je pense que ça a duré 1 an et demi. Par la suite, j'ai arrêté parce que je voulais plus rien savoir de l'orthophonie. C'est comme j'avais marre un peu. Puis j'ai recommencé... je dirais à l'âge de 15 ans, 16 ans, puis j'ai arrêté et j'ai refait entre l'âge de 17 ans, 18 ans, puis par la suite, je suis venu au Canada. Donc, c'est ça. Donc, j'ai eu trois moments différents avec l'orthophonie.
C'est intéressant, je trouve, que tu dises que tu en avais marre parce que ça m'a fait exactement la même chose à cet âge-là aussi. Qu'est-ce que tu penses qui a fait que tu t'es tannée de l'intervention?
Je dirais que c'était vraiment un manque de motivation parce qu'au début, on est motivé, on veut faire les exercices. Je voulais améliorer ma parole. Alors, c'était l'objectif ultime que je voulais faire. Mais comme j'ai mentionné au début, c'est que je passais la moitié de ma journée à l'école. Je voulais pas revenir à la maison, devoir faire mes devoirs scolaires, puis en plus, faire mes pratiques en orthophonie. Donc, je trouvais ça trop à faire durant une journée. Puis c'était des exercices, je pense, de 30 à 1 heure. Donc, j'ai oublié la durée. Ça se peut que c'est moins que ça.
Wow! 30 minutes à 1 heure par jour?
C'est ça. Mais c'est comme, je devais me pratiquer souvent. Alors, je pense que je perdais vite la motivation. Je dois aussi avouer que la majorité du temps, je faisais semblant de faire les méthodes, mais c'était assez rare que je pratique les méthodes aussi.
Ouais. Puis tu sais aussi, je trouve que si le message est seulement axé sur la fluidité, comme tu dis, fais tes stratégies, la parole va être plus fluide dans ta vie de tous les jours, mais il faut que tu le fasses, ou que tu le fasses 1 heure par jour, c'est énorme, premièrement, à cet âge-là, c'est énorme. Puis si, justement, c'est juste axé là-dessus, ça, c'est documenté que c'est pas suffisant de juste axer le discours sur la fluidité parce que c'est impossible d'utiliser des stratégies de fluidité 100% du temps, tu sais. Même pour un adulte, un adolescent, âge scolaire aussi. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas, c'est ça, idéalement, c'est d'avoir un discours aussi de dire, ben quand il y a du bégaiement, c'est correct. Ou tu sais, avoir un discours aussi de un peu différent, là, pas juste axé sur la fluidité, mais axé sur la communication, puis de dire, des fois, il y a du bégaiement, c'est correct, t'as pas fait la stratégie, exemple, si tu pianotes, là, ta parole rythmée, tu l'as pas fait, mais c'est correct, on veut que tu parles, exemple. Tu sais, ce genre de discours-là, un petit peu plus nuancé, là. Donc, je peux comprendre qu'à un moment donné, on se tanne de toujours... C'est parce que tu sens qu'il y a encore du bégaiement, c'est un peu ça. Fait que là, tu dis, ça marche pas, ou je veux dire, tu sais, puis là, ton parent te met en tout cas... veut continuer, mais c'est sûr, à un moment donné, ça s'estompe, cette motivation-là, quand on voit aussi qu'il y a encore du bégaiement dans la vie de tous les jours, puis on n'est pas mieux avec le bégaiement non plus.
Mais c'est ça, ça me faisait ça aussi jeune, là. J'avais interprété comme quand j'ai, comme je racontais dans l'épisode 1, un peu, là, que j'avais interprété qu'à chaque fois que je bégayais, c'était un échec. Fait que c'est sûr que c'est démotivant quand ça arrive plusieurs fois par jour. Tu te dis, ben, je serais censée ne plus le faire. Pourquoi je le fais encore? Ça marche pas. Fait que, ouais, c'est très démotivant quand nos objectifs sont pas flexibles ni équilibrés.
C'est ce que j'allais mentionner aussi parce que je m'appelle que même à l'école, je pense que tu le mentionnes assez souvent que le bégaiement il est variable. Donc, des fois j'avais des périodes où je bégayais trop, des fois j'avais des périodes où je bégayais plus, des fois j'avais des périodes où je bégayais moins. j'avais aussi quelques profs que par exemple, je passais une semaine sans bégaiement ou bien que j'avais un bégaiement qui était faible, et les profs me le faisaient remarquer puis demandaient aux élèves de m'applaudir parce que je parlais bien. Donc c'est comme ça me mettait plus de pression que ok, là maintenant je parle bien, mais qu'avant je parlais mal, puis oui, c'est ça. Donc c'était assez drôle comme expérience. C'est parce que je connais l'intention parce que pour les profs, je pense qu'ils se disent que lorsque la personne elle a une parole fluide, c'est qu'elle se sent mieux dans sa peau, c'est qu'elle sait quoi dire. Puis lorsque la personne bégaye, c'est qu'elle est peut-être stressée, qu'elle a, je sais pas trop. Mais oui, c'est ça. Ça me mettait beaucoup plus de pression que je dois faire plus mes exercices parce que des fois je parlais sans faire les exercices, puis j'avais un bégaiement qui était assez léger. qui était assez léger. Les gens me faisaient remarquer que c'est bien que je pratique mes exercices parce que je bégayais moins.
C'est sûr, mon Dieu. Ça me fait vraiment penser à notre épisode sur l'anxiété, là, quand on disait que de se faire répéter chaque jour, que ça soit par des vrais mots ou par des regards ou par des comportements que les gens ont, mais de comprendre chaque jour, pendant qu'on grandit, que quand on bégayait pas, les gens sont contents, ça devient quelque chose de très malsain, là.
Malheureusement, je pense aussi que c'est la perception de la société du bégaiement, c'est qu'il faut parler d'une certaine façon, sinon qu'il faut ranger la parole.
Ouais, parce que tu sais, c'est quand même beau de voir que tu sais, tes profs embarquaient, les élèves étaient avec toi. C'est quand même beau de voir ça, que tout le monde t'appuyait à quelque part, mais d'une manière un peu... c'est le fun de se faire applaudir, oui, mais là, l'espèce de côté négatif, c'est que là, t'as la pression pour être encore fluide, pour être encore applaudi. Ouais. Quand tu bégayes, ça veut dire que ça, t'as pas réussi, tu sais. Fait que là, personne t'applaudit. Fait que là, c'est sûr que c'est ça. C'est une espèce de message à double... comme un couteau à double tranchant, là. C'est le fun quand tu l'as, la fluidité, mais quand tu l'as pas, oups!
C'est ça.
C'est comme une punition. Fait que, ouais.
Puis ça me fait penser, je lisais un article sur la méditation pleine conscience et le bégaiement. Ça disait que c'était important ou important pour les personnes qui le désirent, là, d'apprendre à pas poser de jugement sur sa propre fluidité, parce que si on se félicite ou on est content quand on bégaye pas, mais c'est ça, c'est ce que tu disais, Judith, là, que c'est à double tranchant. Si je me félicite parce que je bégaye pas, ça veut dire que quand que je bégaye, c'est nécessairement quelque chose de négatif, puis qu'il fallait faire attention à ces pensées-là, puis personnellement, c'est un objectif que je poursuis, là, d'essayer de pas poser de jugement sur ma propre parole. Mais j'imagine que Raymond, pour toi, de grandir dans cet environnement-là où on allait jusqu'à t'applaudir, tu sais, quand tu bégayais pas, ça devait...
Ça mettait beaucoup de pression, c'est certain.
Puis dis-moi, Raymond, à travers les années, là, l'adolescence au Liban, le fait que tu parlais arabe aussi, français, mais en majorité, hein, au Liban, c'est ça? Comment c'était ton bégaiement à travers ces années-là, plus jusqu'à l'âge adulte?
C'est ça, comme j'étais dans une école française, donc je parlais souvent en arabe, puis je parlais aussi en français. Mon bégaiement était moins sévère lorsque je parlais en arabe que lorsque je parlais en français, parce que je pense que j'avais plus l'habitude de parler en arabe, surtout lorsque je suis en famille avec mes amis. C'est ma langue maternelle, donc je suis plus confortable de parler dans cette langue. Mais je remarque souvent que j'ai une sévérité différente lorsque je parle en arabe que lorsque je parle en français. C'est un sujet qui m'intéresse parce que j'ai parlé avec beaucoup de personnes qui sont soit bilingues ou trilingues, puis j'ai l'impression que j'ai tous de différentes expériences avec ça, parce que j'ai des personnes qui bégayent plus lorsqu'ils parlent avec leur langue maternelle qu'avec des langues secondaires. Et dans mon cas, moi, c'est l'inverse.
Mm-hmm. Fait que tu sens que tu es vraiment plus fluide dans ta langue maternelle en arabe. Puis tu nous disais aussi avant de commencer l'enregistrement que des fois aussi peut-être c'est un mélange de que tu te sens plus avec tes amis libanais, tu te sens plus à l'aise aussi. Fait que peut-être que tu sais, il y a peut-être différentes facettes de cette fluidité-là, là, la langue en soi, mais aussi le sentiment que tu as quand tu la parles.
C'est certain que lorsque je suis avec des personnes que je connais assez bien, je suis vraiment à l'aise avec eux. Mais je pense aussi que dans ce temps-là, comme l'arabe était ma langue maternelle, j'avais plus de simplicité à retrouver mes mots. Mais par contre, en français, j'utilisais juste lorsque j'étais à l'école. Donc des fois, je devais formuler mes phrases en avance. Je devais m'assurer que tout était bon avant de dire la phrase. Donc c'était beaucoup plus compliqué à moi de parler en français qu'en arabe. Mais là, maintenant, depuis que je suis venu au Québec, donc ça s'est amélioré, c'est certain.
Ouais, t'es arrivé ici, tu avais 18 ans. Ça s'est passé comment de passer du Liban au Québec? Est-ce que dans ton bégaiement, tu as vu une différence, que ce soit par exemple parce que tu sentais que c'était plus ou moins accepté ici ou même dans ta fluidité peut-être?
Je m'appelle que quand je suis arrivé ici, il y avait eu tout un changement culturel parce que de vivre au Liban puis de venir au Québec, c'est deux continents, plusieurs océans différents. Donc c'est deux mondes qui sont complètement différents. Je dois avouer qu'au début, j'avais pas trop eu de commentaires au niveau de mon bégaiement, mais ce que j'ai remarqué, c'est que les gens étaient peut-être un peu plus compréhensifs. J'ai eu de mauvaises expériences lorsque j'allais au supermarché, à la pharmacie avec la caissière, parce que je devais prendre une prescription ou bien je devais poser des questions à quelqu'un. Les gens me regardaient bizarrement, mais c'est parce que je parlais en français, puis j'étais moins à l'aise de parler en français. C'est ça que, comme tu as mentionné, je suis venu ici à l'âge de 18 ans, puis j'ai commencé mon bac. Donc, je m'appelle Kobach, mais j'étais pas confortable de parler devant les gens. Donc, c'était assez rare que je posais des questions en classe. Et surtout aussi, quand j'étais au Liban, c'était plutôt dans un milieu scolaire. On était 10 à 15 élèves par classe. Donc, les professeurs nous connaissaient tous. Alors, tous les professeurs savaient d'avance que j'avais un bégaiement. Tous mes camarades de classe le savaient aussi. Mais à l'université, c'est assez différent parce qu'on avait plusieurs professeurs ont été 100 élèves dans la classe. Et je connais juste deux ou trois personnes. Je pense que j'ai eu juste une mauvaise expérience avec le bégaiement lorsque j'étais à l'université durant le bac. C'était lorsque quelqu'un m'avait dit que lorsque je parle, il ne faisait jamais attention parce qu'il ne comprenait rien de ce que je disais. Mais je m'appelle bien que j'avais des amis qui m'ont défendu. C'était comme nous, on le comprend très bien. Donc, si tu ne comprends pas, c'est ton problème à toi. Donc, j'étais content quand même que j'avais des amis qui me défendaient. Mais en général, je disais que mon expérience à l'université, durant le bac, c'était une bonne expérience.
Mais ça, c'était-tu un étudiant qui t'avait dit ça ou c'était un prof?
Ouais.
Un étudiant?
Non, c'était un étudiant, oui. Oui, c'était un étudiant. C'était durant la première année. Alors, je pense que tout le monde était aussi un peu immature aussi. Les gens venaient de terminer leur cégep, puis on venait de commencer le bac.
Bien, ça me fait penser justement encore à l'épisode sur l'anxiété où on disait que l'intimidation c'était présent surtout au primaire et au secondaire, mais ça arrivait encore plus tard. Puis c'est un exemple de ça, là. Wow! Mais c'est super cool que ton ami ait pris ta défense, au fond, parce que c'est là que tu réalises que c'est vraiment la personne qui se moque de toi.
C'est ça, oui.
Qui a tort, là, vraiment.
On entend souvent aussi à l'université, surtout dans le bac, où il y avait des étudiants qui ont échoué leur examen parce que le professeur ne voulait pas qu'ils bégayent. Donc, c'est vrai que je dirais que plutôt l'intimidation... Et l'intimidation avec les étudiants, c'est durant le primaire et au secondaire. Mais je pense que ça se poursuit aussi à l'université. Mais ça devient plus avec les professeurs parce que à l'université, j'ai l'impression que les professeurs ont moins de patience que les professeurs au primaire et au secondaire aussi.
Wow, intéressant. Est-ce qu'il y a de tes professeurs qui t'ont dit ou fait sentir que bégayer dans des présentations, c'était pas acceptable?
Lorsque j'étais au bac, non. Mais durant une rencontre à l'ABC, on a eu beaucoup de personnes qui avaient parlé de ça. Donc c'est ça. Donc, je parle d'autres personnes qui ont eu de mauvaises expériences avec des professeurs.
Oui, parce que les professeurs, c'est des êtres humains là, qui arrivent avec leurs propres préjugés, leurs propres...
C'est ça.
Conception, puis peuvent trouver que, évidemment, ça se fait pas. Ben, même si c'est pas correct. On s'entend. Là. Sinon, au Québec, est-ce que tu as suivi des interventions en bégaiement ici?
J'étais suivi en orthophonie juste pendant 5 à 7 mois. C'était lorsque j'avais terminé mon bac et que je commençais ma maîtrise. Je vais peut-être un peu expliquer. Donc, j'ai fait un bac en sciences biopharmaceutiques, puis j'ai décidé de faire une maîtrise en épidémiologie. Et la première journée de ma maîtrise, j'ai su que j'avais 2 gros séminaires à présenter. Donc, c'était des présentations de 40 minutes où je devais expliquer mon projet de thèse. Puis, durant le deuxième séminaire, je devais présenter les résultats. Puis, c'était suivi par des périodes de questions des professeurs et des étudiants. Donc, lorsque j'ai su que j'avais une présentation de 40 minutes à faire, c'était la panique totale. Donc, j'avais appelé le service d'aide aux étudiants pour voir s'ils offraient des services aux personnes qui avaient un bégaiement, parce que je savais que les personnes qui avaient le TDAH, des personnes qui avaient des problèmes de concentration, ce qu'ils faisaient généralement, c'est que soit ils faisaient leur examen dans un local différent, ou bien qu'ils avaient 30 minutes en plus. Donc, je pensais qu'ils offraient d'aide aussi aux personnes qui ont un bégaiement. Et la seule chose qu'ils m'ont dit, c'est que je peux être exempté des présentations orales. Mais moi, je voulais faire la présentation orale, parce que je trouve que dans le milieu de la recherche, c'est important de communiquer avec les choses, de communiquer avec les autres, d'échanger aussi des idées, parce que lorsqu'on travaille nous-mêmes dans un projet de recherche, on est souvent concentré sur une seule idée, mais lorsqu'on discute avec d'autres chercheurs, d'autres étudiants, ils ont souvent de perceptions différentes, puis des backgrounds différents à apporter. Donc c'est ça, ce qu'il m'avait dit, c'est que je peux avoir un rapport de l'orthophonie qui fait en sorte que je sois exempté de mes séminaires, mais je voulais absolument présenter mes séminaires. Donc ce que j'ai décidé, c'était de voir une orthophoniste, d'essayer d'améliorer ma parole. J'ai fait la méthode de Camperdown, donc j'ai fait la méthode pendant 5 à 6 mois, mais par la suite j'ai arrêté aussi parce que je devais me concentrer plus sur les études que sur les méthodes en orthophonie. Et comme d'habitude, je faisais les méthodes au début, mais par la suite, j'ai fini par perdre ma motivation. Donc, j'ai fini par arrêter aussi les services d'orthophonie après 5-6 mois.
Mm-hmm. Puis, est-ce que tu sens quand même que dans ta présentation, tu reprenais certaines stratégies de fluidité que tu avais apprises dans le Camperdown? Est-ce que tu sentais que ça te donnait, encore là, comme un autre outil, entre guillemets, ou une autre chose que tu peux faire? Est-ce que tu avais senti ça ou tu avais senti que tu ne l'as pas vraiment utilisé dans tes présentations?
Je pense pas que j'ai utilisé parce que de ce que je comprenais de la méthode Camperdown, c'est qu'il faut passer plusieurs mois à pratiquer la méthode, puis c'est par la suite on commence à appliquer de la méthode dans des conditions réelles. Par exemple, lorsque j'appelle une personne, lorsque je fais des présentations. Donc, lorsque j'avais arrêté les services, je faisais juste des pratiques moi-même. Donc je me sentais encore pas trop confortable d'utiliser la méthode lorsque j'ai une présentation, parce que c'est une méthode qui est assez complexe. Donc il y a plusieurs degrés de fluidité avec la méthode Camperdown, puis j'étais encore dans un stade où je devais m'habituer avec la méthode. Donc, je n'étais pas du tout confortable à l'utiliser durant les présentations.
Oui, c'est ça. Tu devais être en phase 2 encore. Il y a 4 phases au programme Camperdown. Puis en phase 2, c'est encore des pratiques structurées. Encore là, tu sais, moi, ce que je trouve, par exemple, c'est que après quelques mois, par exemple, on devrait rapidement aller dans la vie de tous les jours, tu sais, parce que c'est là aussi l'espèce de, tu sais, si on continue trop en structuré, ben c'est qu'on perd la motivation parce qu'on voit même pas l'application réelle dans la vie de tous les jours. Fait que ça, je me dis, ah, il aurait fallu peut-être avoir quelque chose d'encore plus rapidement, d'essayer de le faire dans la vie de tous les jours plus rapidement, mais encore là, je sais pas, là, je connais pas... Ce que tu as eu comme suivi, ben je veux dire, en détail, là, avec l'orthophoniste, comment ça s'était passé, là?
Est-ce que tu penses, je suis curieuse, qu'il y aurait eu des trucs que l'orthophoniste aurait pu faire ou des trucs tout court qui t'auraient aidé à garder la motivation? ou ça se peut très bien que c'était pas ce que tu avais besoin, puis c'est parfait aussi, là.
Je pense aussi que je me suis rendu compte rapidement que j'avais plus besoin de l'orthophoniste parce que, personnellement à moi, quand je me suis dit que j'avais juste me pratiquer beaucoup plus que les autres étudiants. Et durant la maîtrise aussi, j'ai eu de très bonnes expériences parce que mes superviseurs, mes collègues en classe, tout le monde acceptait très bien mon bégaiement, donc j'ai jamais eu de problème avec eux. Et même, je m'appelle aussi que comparé à d'autres personnes qui devaient juste se pratiquer une semaine, 48 heures avant la présentation. Moi, j'ai parlé de ça avec ma directrice, puis ce qu'elle m'a dit, c'est que je peux préparer mes diapositives pour la présentation en peut-être 3 semaines, 1 mois en avance, que je pouvais me pratiquer avec elle à plusieurs reprises. J'ai aussi fait différentes pratiques avec mes collègues. Donc, j'étais très bien préparé pour mon premier séminaire. Et ça s'est très bien passé. Donc, c'est vrai que j'ai eu des que j'ai bégayé durant la présentation. Mais ce que j'avais décidé aussi de faire, c'est de mentionner mon bégaiement au début de la présentation parce que je présentais devant mes amis, devant des professeurs qui m'ont déjà enseigné, donc qui savent que j'ai un bégaiement. Mais je présentais aussi devant d'autres étudiants que j'ai jamais raconté. Donc, je voulais qu'ils savent d'avance que j'avais un bégaiement. Donc, je l'ai mentionné. J'ai fait une petite plaisanterie au début aussi. C'est comme, je pense que j'avais dit que si j'ai des répétitions au déblocage, c'est un problème technique de ma part, donc quelque chose de ce genre-là. Mais ça s'est très bien passé. Même aussi après la présentation, après deux, trois jours, j'ai reçu un courriel de la part. C'est un groupe d'entraide entre les étudiants qui s'appelle Comet. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils aident d'autres étudiants pour se pratiquer aux présentations orales. Ils avaient très bien aimé ma présentation, qui voulait que je fais partie de ce groupe-là. Donc j'ai aidé d'autres personnes à se pratiquer. Et c'est là d'où est-ce que aussi j'ai eu l'idée de monter ce programme-là avec l'ABC. Je pense qu'on va discuter de ça plus tard aussi durant le podcast.
Oui, effectivement, on va parler un peu plus tard du projet de rencontre d'aide pour les présentations que tu as monté à l'ABC. Puis c'est super intéressant que tu dises que cette idée-là t'est venue de ce groupe-là à l'université.
Ouais, vraiment. Puis ce que je voulais aussi juste dire, une petite parenthèse là, pour ceux qui nous écoutent, tu sais, dans les présentations orales, ce que je trouve super beau, Raymond, c'est que tu as trouvé, toi, des façons de faire qui fonctionnent pour toi. Ça veut dire que là, OK, moi, un mois d'avance, je fais mes diapos de PowerPoint, je me pratique devant la prof, devant certains collègues étudiants. Tu sais, à un moment donné, tu sens que, ah oui, là, je me suis assez pratiquée, puis je suis prêt à le faire, mon vrai, le vrai exposé, là, la journée voulue, là. Fait que ça, là, c'est super pertinent parce que chacun, on a notre propre recette, entre guillemets, là, pour être le mieux possible dans nos exposés. Sans viser la perfection, c'est sûr que c'est stressant, il va y avoir du bégaiement, c'est correct, mais, tu sais, le but, c'est de bien dire qu'est-ce qu'on veut dire, puis d'être le plus à l'aise possible. Fait que t'as trouvé, je trouve, une super belle, tu sais, ta planification qui fonctionne pour toi. Fait que ça, je trouve ça vraiment super, ouais.
Ce que je vois qui ressort de ce que tu dis et que je trouve vraiment beau, c'est que on a tendance à s'imaginer, ou peut-être que le public pense ça, ben pas notre public dans le podcast, mais je parle de la population en général, que les gens s'imaginent peut-être que quand tu bégayes, nécessairement, tu as besoin d'aller en orthophonie. Mais ce que je vois qui ressort de ce que tu dis, puis de mon expérience aussi, c'est que non. Si... Et oui, ça peut aider, mais si tu veux pas le faire ou si tu considères que t'en as pas besoin, c'est parfait. C'est pas parce qu'on bégaye qu'on a besoin de consulter nécessairement.
Je pense aussi que c'est important de consulter un orthophoniste peut-être juste une seule fois. Comme moi, j'ai essayé à plusieurs reprises et j'ai fini par me rendre compte que j'étais plus vraiment intéressé à consulter un orthophoniste. Et aussi, j'ai commencé à avoir d'autres priorités aussi. C'est comme j'avais beaucoup de charges de travail. Suite à la maîtrise et au doctorat, j'ai mon projet de recherche, j'ai aussi des cours à suivre. Donc c'était plus ce n'était plus une priorité pour moi personnellement. Mais si je peux donner un conseil aux personnes qui bégayent, c'est que s'ils ont bien sûr les ressources financières aussi de consulter en orthophonie, de l'essayer. Parce que j'ai rencontré des personnes qui ont consulté en orthophonie et qui ont trouvé un bénéfice aussi de consulter en orthophonie. Donc je pense vraiment que c'est du cas par cas, mais qu'ils essaient vraiment de trouver une orthophoniste qui est spécialisée dans le bégaiement. Et c'est ça, qui est spécialisée dans le bégaiement, surtout chez les adultes, parce que d'après ce que je comprends, c'est qu'il y a des orthophonistes chez les jeunes, chez les adultes, chez les deux ensemble.
Oui, puis tu fais vraiment bien de mentionner que choisir une orthophoniste qui est spécialisée en bégaiement, c'est ultra important, là, parce que quelqu'un qui ne s'y connaît pas, je pense, aura tendance à voir ça comme une recette un peu, mais on sait qu'en bégaiement, comme pour d'autres difficultés aussi, là, c'est du cas par cas souvent, puis je pense que des approches intégrées, ça fonctionne beaucoup mieux, donc ça demande une connaissance vraiment fine de ça.
Oui, c'est ça. Quand on parle d'approche intégrée, tu sais, dans le fond, ce que tu veux dire, si je me trompe pas, c'est que c'est ça, on doit prendre plusieurs types d'approches selon les besoins spécifiques de la personne. Peut-être qu'il y en a une personne qui va prendre seulement le programme Camperdown, mais souvent, il faut rajouter d'autres approches.
Sinon, pour revenir à ton parcours universitaire, tu es à McGill, c'est en anglais. Est-ce que présenter en anglais, tu trouves que c'est plus difficile? Parce qu'on parlait tantôt qu'au Liban, tu parlais deux langues, tout ça. Est-ce que tu vois qu'en anglais, ça joue sur ton bégaiement ou ta perception de la chose?
C'était le point qui me préoccupait le plus. Mais parce que j'ai présenté à plusieurs reprises dans des conférences. Mais j'avais surtout fait des présentations par affiche, donc c'était des petites présentations de 3-5 minutes où est-ce que je parlais en anglais. J'ai remarqué que lorsque je parlais en anglais, je bégayais trop. Donc lorsque j'ai appliqué à McGill, j'étais accepté, mais pas trop honnête, je voulais aussi refuser parce que c'était une université en anglais, tous les cours allaient être en anglais. J'allais discuter avec mes superviseurs en anglais, avec les professeurs, les étudiants. Donc comme je me sentais aussi confortable à l'université de Sherbrooke, parce que j'ai fait ma maîtrise, parce que c'est une université en française et je connaissais tout le monde. Donc, je me questionnais aussi, est-ce que je dois rester à Sherbrooke ou est-ce que je suis plus confortable ou bien est-ce que je prends le challenge puis je m'en vais à McGill ou est-ce que c'est une université en anglais, je vais avoir beaucoup plus de travail. Et je suis content aussi d'avoir pris la décision de changer d'université, d'aller à McGill, parce que même si au début, j'ai eu beaucoup de difficultés, peut-être des fois, je peux bégayer pendant 5 secondes puis j'arrive à terminer ma phrase. Mais au début, j'ai beaucoup eu de la difficulté à m'exprimer en anglais. J'étais stressé, donc c'est sûr que le fait d'être stressé a augmenté ma sévérité. Lorsque j'ai commencé, j'ai eu des problèmes avec une des personnes avec qui je travaillais parce que la personne était vraiment impatiente. Ça a pris du temps pour qu'elle s'habitue aussi à mon bégaiement. Mais je m'appelle aussi très bien que ma directrice principale m'a dit que c'est aux personnes avec qui je travaille de s'habituer à mon bégaiement. C'est pas à moi de m'habituer à ces personnes-là. Donc, je pense aussi que j'étais vraiment chanceux parce que durant tout mon parcours, j'ai eu des superviseurs qui comprenaient très bien mon bégaiement et qui voyaient plus mon travail, qui me voyaient plus en tant qu'une personne qui travaille fort, qui donne des résultats et non pas qu'une personne qui avait un bégaiement. Donc, je pense que c'est important aussi de si les gens pensent pas de la recherche, de choisir, de bien choisir leur superviseur ou bien directeur de recherche aussi, parce que c'est des personnes avec qui on va travailler pendant deux ans durant la maîtrise, puis juste à 5 ans durant le doctorat. Donc, c'est bien d'avoir une bonne relation avec nos directeurs de recherche. C'est ça. Au début, j'ai eu des problèmes. Mais je me suis vite rendu compte que même durant les cours, par exemple, tous les cours se donnaient en anglais, mais même si je bégayais, je posais souvent des questions en classe parce que je voulais comprendre aussi, je voulais comprendre la matière, je voulais connaître le monde, je voulais avoir plus de connaissances. J'ai jamais vraiment eu de remarques de la part des gens sur mon bégaiement. Les gens étaient intéressés à voir Les gens étaient intéressés à avoir mon opinion sur certains sujets. On a eu beaucoup de discussions intéressantes. Donc, peut-être que le problème venait du problème avec le bégaiement était juste présent au début parce que j'étais stressé aussi. Donc, j'étais souvent anxieux lorsque je devais parler. Actuellement, et lorsque je parle en anglais, je bégaye beaucoup plus lorsque je parle en français puis en arabe. Mais lorsque je dois le faire, je le fais et j'ai aucun problème à le faire aussi. Et lorsque j'ai des présentations orales à faire dans des congrès, dans des séminaires, ou bien lorsque je présente un projet en classe, je me pratique souvent en avance. C'est comme je sais que comparé à d'autres personnes, je dois souvent travailler 2-3 fois plus pour qu'on aboutisse au même résultat. C'est quelque chose que je dis assez souvent. Mais je le fais parce que je veux pas qu'on me rajoute 5 minutes en plus parce que j'ai un bégaiement. Si j'ai une présentation à 30 minutes, je fais souvent en sorte de pratiquer pendant 25 minutes au cas où j'ai un bégaiement sévère. J'ai 5 minutes de plus qui sont ajoutées de ces 30 minutes-là. Mais j'ai jamais eu de problème avec des chercheurs ou des étudiants.
Oui, effectivement, Raymond, tu fais vraiment bien de mettre l'emphase sur le fait de bien se préparer parce qu'au fond, c'est un bon conseil tant pour les personnes qui bégaient que pour celles qui ne bégaient pas, là, de bien connaître son sujet puis d'être à l'aise avec sa présentation. C'est tellement un bon conseil. Puis justement, parlant de présentation, en tant que qu'étudiant chercheur, t'as participé à des congrès comme à celui de l'ACFAS en 2019, qui est le congrès de l'Association francophone pour le savoir. Est-ce que tu voudrais nous parler un peu de cette expérience-là avec le bégaiement?
En fait, la conférence de l'ACFAS, c'était la première conférence dans laquelle je faisais une présentation orale. Parce que dans les anciennes, dans les conférences précédentes, c'était surtout des présentations par affiche. Donc, je présentais pendant 2-3 minutes. Mais c'était la première fois dans laquelle mon résumé était accepté pour une présentation orale. Donc, je m'appelle au début, j'étais vraiment stressé parce que je devais présenter devant un public que je n'avais jamais rencontré. Mais comme encore une fois, je me suis beaucoup pratiqué. C'était aussi une présentation en français, donc c'était la plus simple possible de le faire. Mais ça s'est très bien passé. Donc, comme d'habitude, je mentionne toujours mon bégaiement au début de la présentation. Comme ça, les gens sont au courant que j'ai un bégaiement. Parce que des fois, les gens peuvent avoir des grimaces lorsqu'on bégaye parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Donc, comme ça, ils sont au courant. Puis, ça s'est bien déroulé. Donc, j'ai présenté pendant 10 minutes, puis après, ça a été suivi par des périodes de questions. J'ai eu aucun commentaire sur mon bégaiement. Ça s'est très bien déroulé. En fait, j'ai eu une très bonne expérience. Mais par contre, la manière que, comme on le sait tous, durant le COVID, donc, il n'y a plus de rencontres face à face. Donc, tous les congrès, toutes les conférences sont rendues souvent virtuelles sur des plateformes ou autres plateformes. Je m'appelle la première fois dans laquelle je présentais. Donc, c'était encore une fois devant un public que je n'avais jamais rencontré. Et le technicien qui était supposé de s'assurer que tout s'est déroulé bien. Donc lorsque j'ai commencé à parler, puis lorsque comme vous l'avez sûrement rencontré, je bégayais surtout au début de la phrase, j'ai des blocages. Donc j'ai eu un blocage et la personne me disait allô, allô, allô. Et j'arrivais à peine à répondre. Alors la personne a fini par me déconnecter et me reconnecter parce qu'il pensait que j'avais un problème technique. Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est ça. Donc j'ai dû lui expliquer rapidement. Donc j'ai écrit sur le chat que c'est pas un problème technique, c'est mon bégaiement. C'est comme j'ai un bégaiement. Ouais, mais suite à cette présentation, j'ai appris. Donc, chaque fois, c'est parce que durant les derniers 3 mois, j'ai présenté dans 4 conférences. Donc, j'ai eu 4 présentations à faire. Donc, j'écrivais souvent un courriel au technicien en mentionnant que j'ai un bégaiement. Donc, s'il y a des blocages, des répétitions, c'est correct. Juste pour qu'ils soient au courant parce que comme je voulais pas avoir la même expérience. Mais c'est ça qu'on apprend. Donc, faire des présentations sur Zoom pour une personne qui a un bégaiement, ça peut être un challenge aussi. Mais...
Oui, c'est ça. Fait que c'était vraiment les présentations que tu as eues avec le confinement là, de 2020 à cause de la pandémie. Là, il n'y avait plus rien qui se passait en personne. Il n'y avait aucun congrès en personne. Donc, c'était tout par Zoom.
Il y avait des conférences où je devais enregistrer en avance. Donc, ça se passait bien parce que je pouvais refaire la présentation à plusieurs reprises si je n'aimais pas la façon que je parlais, ou bien si je bloquais trop sur un mot. J'avoue que j'ai effacé à plusieurs reprises puis j'ai refait la présentation. Mais c'était des présentations live. Donc, je vais beaucoup me pratiquer en avance.
Donc, Raymond, la dernière question qu'on avait pour toi, c'est quoi tes plans dans le futur par rapport à ton doctorat, puis qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard?
J'aimerais toujours travailler dans la recherche, mais plutôt au niveau gouvernemental, donc travailler dans des organismes gouvernementaux, surtout au Québec. J'aime ça travailler au Québec. Nous avons beaucoup de banques de données qui sont intéressantes. Actuellement, je suis aussi en train de me demander si j'ai envie d'être chercheur au niveau académique, donc j'ai travaillé dans une université à être chercheur, professeur. C'est quelque chose à laquelle je suis en train de penser, mais c'est parce que j'ai besoin aussi de faire des postes de doctorat aussi, des stages postdoctoraux, pas de chercheur à l'université. Donc, pour l'instant, je dirais chercheur au niveau gouvernemental.
Génial. Puis aimerais-tu nous parler, là, comme dernier point, parce que je trouve ça hyper pertinent pour les gens qui nous écoutent puis peut-être qui ne connaissent pas, les rencontres de soutien à l'ABC?
Oui, c'est un projet que la communauté a vraiment à cœur. C'est parce que, comme je mentionnais aussi au début du podcast, lorsque j'avais présenté mon premier séminaire à la maîtrise, on m'a demandé à l'université d'aider d'autres personnes avec à ce qu'ils se préparent mieux pour les présentations orales. Donc, j'ai décidé de monter, avec l'aide de l'ABC, bien sûr, c'est pas un programme que j'ai fait tout seul, de monter un programme d'aide aux personnes qui ont un bégaiement, s'ils veulent se pratiquer pour une présentation orale ou bien s'ils ont une entrevue de travail. Et nous avons préparé et nous avons trouvé beaucoup de questions qui peuvent être posées durant les entrevues de travail sur Google. Ou bien si quelqu'un voudrait simplement se pratiquer pour faire une présentation orale, nous offrons l'opportunité de le faire. C'est durant la deuxième rencontre du mois, donc c'est le quatrième jeudi. Et puis la personne, elle aura soit le droit de le faire devant un groupe, donc durant la rencontre. Mais si la personne n'est pas confortable de le faire devant plusieurs personnes, elle aura aussi l'option de le faire devant une seule personne, ça serait moi, par exemple. Puis ça serait soit une rencontre téléphonique sur Skype ou bien sur Zoom.
Oui, pour avoir plus d'informations sur ces rencontres-là, là, sur notre site web qui est le abcbégaiement.com, il y a une section qui s'appelle groupe de soutien. Puis on a trois types de rencontres. Elles sont toutes détaillées sur cette page-là. On va mettre le lien dans le résumé de notre épisode. Puis, les rencontres où on peut se pratiquer pour les présentations orales, c'est les rencontres thématiques, ça s'appelle. Donc, c'est des rencontres qui ont un thème comme le nom le dit. Là. On parle parfois de théâtre, de présentation, de méditation, par exemple. Et s'il y a des personnes qui veulent se pratiquer, elles peuvent nous écrire ou simplement, sans nous le dire avant, mais c'est préférable de nous avertir à l'avance, là, mais on peut réserver du temps pour qu'une personne se pratique puis qu'elle profite du fait qu'on est là et qu'on est un public pour elle. Puis c'est ça... En date de l'enregistrement de cet épisode, le programme n'est pas lancé encore, mais il y a un programme de jumelage qui s'en vient. Ou est-ce que s'il y a une personne qui ne sent pas prête ou qui ne désire pas simplement participer à des rencontres en groupe, on peut la jumeler à une personne qui bégait ou qui ne bégait pas. Si elle veut, par exemple, se pratiquer comme Raymond disait, avec cette personne-là pour faire une présentation ou simplement pour parler du bégaiement ou encore si la personne est en orthophonie puis souhaite pratiquer les techniques qu'elle apprend avec une personne qui bégait aussi, mais tout ça. Donc, c'est un programme, dans le fond, pour jumeler deux personnes qui bégaient ou une personne qui ne bégait pas avec une personne qui bégait. Donc, si le programme est en marche quand cet épisode est publié, on va mettre le lien dans la description.
Super. Hey, merci beaucoup, Raymond, d'avoir été présent aujourd'hui. Ça a été super pertinent, notre rencontre. Merci.
Oui, vraiment, mais merci beaucoup, Raymond.
Merci à vous.
Salut tout le monde.